Bonjour et bienvenue dans le 7e numéro de l'Analyse des Experts, une émission proposée par le site internet horse-ball.org.
Plus que quelques jours avant la 7e étape du championnat Pro Elite qui se dispute ce week-end au parc du Cheval de Rhône-Alpes à Chazé-sur-Ain.
Nous sommes très heureux de vous accueillir dans notre émission dans laquelle nous allons essayer de nous plonger dans le monde du horseball.
Entre analyse, actualité et interview, nous allons essayer de vous livrer un maximum d'informations sur la discipline.
Nous sommes le mercredi 1er avril 2015 et sans plus attendre, retrouvons le sommaire de l'émission.
Retour sur la 6e étape du championnat de France Pro Elite qui se tenait à Tarascon.
La qualité de l'organisation avec la note des équipes.
Notre rubrique expert comptable.
L'analyse des rencontres, le classement, les bonnes et les mauvaises opérations.
Et bien entendu, les impressions des différents acteurs du circuit.
Nous ferons ensuite un petit récapitulatif du championnat de France Pro Elite féminin, dont la dernière étape se tenait également à Tarascon.
Puis nous prendrons la direction du parc du Cheval de Rhône-Alpes à Chazé-sur-Ain où se disputera la prochaine étape du championnat.
L'infirmerie de la Pro Elite et les compositions probables des différentes formations.
Et enfin, la présentation des matchs et des chocs au programme.
Bienvenue dans le 7e numéro de l'analyse des experts. Nous débutons notre émission par un retour sur la dernière étape du championnat de France Pro Elite qui se tenait à la Cité du Cheval de Tarascon les 7 et 8 mars derniers.
Oui, avant d'analyser les résultats sportifs, découvrons tout de suite la note moyenne que les 10 équipes Pro Elite ont attribuée à l'organisation.
6 sur 10, 6 sur 10, 6 sur 10, 8 sur 10, 6 sur 10, 8 sur 10, 6 sur 10, 5 sur 10, 9 sur 10.
Voilà donc une moyenne de 6,6 sur 10 donnée par les responsables des équipes pro-élite.
Et à noter que la note donnée à l'organisation par le délégué technique fédéral est de 5,91 sur 10.
Après 6 étapes, c'est donc l'organisation de Saint-Lô qui semble la plus appréciée par les acteurs du circuit avec une note globale de 8,53 sur 10. Devant Le Mans à 8,25 sur 10, puis Mâcon à 8,19. Et on retrouve ensuite Saumur à 7,95, Rosaire-aux-Salines à 7,26 et enfin Tarascon avec une moyenne globale de 6,25 sur 10. Rentrons à présent dans le vif du sujet avec les données sportives à date, avec notre rubrique expert comptable.
Meilleures attaques, meilleure défense, meilleur joueur, meilleur buteur, podium WHBO, sanctions, des chiffres et des données en pagaille pour un état des lieux du championnat de France Pro Elite à l'issue de la 6e étape de Tarascon.
6,6 sur 10.
C'est donc la note donnée par les équipes du championnat de France Pro Elite à l'organisation de Tarascon. 5,91.
C'est la note donnée par le délégué technique fédéral à l'organisation également de Tarascon. 122.
C'est le nombre de buts inscrits par la meilleure attaque du championnat depuis le début de la saison qui n'est autre qu'Arles HCC. 69.
69, c'est le nombre de buts encaissés par l'équipe de Bordeaux qui n'est autre pour le moment que la meilleure défense du championnat. 6 buts.
6 buts, c'est le nombre inscrit par les meilleurs buteurs de cette étape, à savoir Joël Gambino pour l'équipe de Bellegarde, Clément Abbey pour l'équipe de Coutainville, Mathieu Laguerre et Mickaël Le Gall pour l'équipe d'Arles HCC, Arnaud Mazas pour l'équipe d'Aramon et Hugo Soube pour l'équipe de Bordeaux. 35.
35, c'est le compteur de buts de Benoît Lévesque pour l'équipe d'Arles HCC qui est pour le moment en tête du classement des buteurs au général. 48.
C'est le nombre de points du meilleur joueur du classement WHBO, à savoir Benoît Lévesque pour l'équipe d'Arles. 5.
5, c'est le nombre de cartons distribués par les arbitres sur l'étape de Tarascon. 2.
2, c'est le nombre de cartons distribués en Pro Elite sur l'étape de Tarascon. 28.
28, bah, c'est le nombre de cartons distribués depuis le début de la saison en Pro Elite par les arbitres du championnat. 8.
8, c'est le nombre de cartons distribués en Pro Elite par l'arbitre le plus sévère de la catégorie, à savoir Quentin Gauthier-Lafaille. Il est suivi de près avec 7 cartons par Jean-Marc Sor. Et avec 5 cartons en 3ème position, c'est Denis Boulard qu'on retrouve. 144.
144, c'est le nombre de buts inscrits hein, sur l'étape de Tarascon par les équipes du championnat de France Pro Elite. Il y en avait 133 l'année dernière pour l'étape de Fontainebleau. 11 buts de plus inscrits cette saison. Retour sur les 10 matchs qui étaient au programme de la dernière étape qui se disputait à Tarascon. Les bonnes, les mauvaises opérations, on vous dit tout sur les résultats importants. Et on commence tout de suite par la meilleure opération du week-end qui est opérée par l'équipe d'Aramon Saz.
Effectivement, avec 3 places de gagnées au général, c'est une très belle opération que les hommes de Bertrand Leclerc viennent de réaliser. Lanterne rouge avant l'étape, l'équipe pointe aujourd'hui à la 7e place du classement provisoire. En cause, 2 victoires contre Angers, 6 buts à 9. Et contre Ouest Lyon, 6 buts à 5. Pour vous donner une idée, l'équipe d'Aramon restait sur une série de 7 défaites consécutives.
Et l'exploit est assez énorme pour être souligné.
Oui, en effet, hein, depuis leur montée en Pro Elite en 2013, jamais l'équipe d'Aramon n'avait ramené 6 points sur une seule étape. On retrouve d'ailleurs Bertrand Leclerc, coach de cette équipe aramonaise.
Très très positif. On a cherché à revenir à la sortir de cette zone de relégation et rattraper notre début de saison catastrophique. Donc là, très très positif. 2 victoires, dont une obtenue vraiment avec le cœur aujourd'hui dans des conditions hyper difficiles. Que de la satisfaction, très fier de mes joueurs, très fier du groupe. J'espère que la dynamique est lancée pour la fin de saison.
Voilà, et de manière générale, on peut dire que les équipes du Sud sortent assez gagnantes de cette étape de Tarascon.
Oui, en effet, on compte trois équipes hein, du Sud de la France dans ce championnat Pro Elite. Arles, Aramon et Bellegarde, sur les six matchs du week-end de ces trois équipes, aucune défaite n'est enregistrée. À titre de comparaison, hein, sur l'étape de Saint-Lô, ces trois équipes n'avaient ramené que deux victoires grâce à l'équipe d'Arles HCC. De quoi relancer le débat sur la réalité géographique du circuit Pro Elite.
Au niveau sportif, cette étape nous a livré des résultats surprenants. Hein. Bellegarde a tenu en l'échec l'équipe de Bordeaux sur le score de 6 buts partout. Le lendemain, c'est l'équipe de Lille qui en a fait les frais puisque Bellegarde à nouveau fait un match nul, 6 buts partout.
Pas de changement à signer sur le podium. Arles, Bordeaux et Chambly continuent la course dans cet ordre. Pour autant, les écarts se creusent entre ces trois équipes, en cause notamment la confrontation directe entre les équipes de Bordeaux, 2e, et de Chambly, 3e.
Et malgré les difficultés que connaît le collectif bordelais, avec la blessure du cheval de Romain Vigneron, Malcolm Alta, la blessure de Romain De Ponce et de son cheval chef de file pour l'étape de Tarascon, Chambly n'est pas parvenu à l'emporter. Preuve que la gestion du groupe bordelais est efficace malgré ses absences. Bordeaux reste une équipe redoutée, en témoigne la prestation du Gossoub absent sur tout le début de la saison pour blessure et de retour depuis le début de l'année 2015. Il a permis à son équipe de l'emporter en inscrivant 5 buts face à Chambly. On écoute tout de suite Laurent Motard pour l'équipe de Chambly qui revient sur les prestations de son équipe sur ce week-end dans le Sud.
Pour l'équipe de Chambly, on a une entrée en matière avec samedi où le match se passe plutôt bien parce que l'équipe de Loire n'a pas vraiment enclenché et on s'est installé dans le jeu, même si c'est resté un peu éteint comme match, ça s'est relativement bien passé. Et malheureusement, aujourd'hui, là, on a eu beaucoup de déchets. Bordeaux qui s'est bien réveillé après 2-3 matchs un peu absents et là, ça n'a pas tenu. Un manque de possession de balles en finition et beaucoup trop de gâchis quoi. Bah ça va être la même chose hein, puisqu'on a des équipes nouvelles donc c'est toujours d'essayer de remettre tout le monde d'aplomb et de garder, de développer du jeu, essayer de se remettre un petit peu en ordre au niveau du ballon puisque pour l'instant c'est la maladresse qui nous coûte cher plus qu'autre chose et il y a besoin de travail hein, de toute façon comme c'était prévu en début d'année.
Voilà, et donc une mobilisation totale du collectif bordelais leur permet de rester dans la course pour le titre, même si les écarts quand même se creusent avec l'équipe d'Arles HCC.
Derrière, la lutte continue. Coutainville-Izéa et Lillet-Méroc se livrent une bataille pour la 4e place. Et à ce petit jeu, si les Normands avaient lâché du terrain lors de l'étape de Saint-Lô, les voilà revenus à cette place de 4e. Opposée le samedi dans une confrontation directe, l'équipe de Coutainville-Izéa a pris le dessus sur son opposant lillois dans un match serré de bout en bout. On regrettera le dimanche le manque de régularité de cette équipe normande qui bute contre Angers, 6e au général. Dans le même temps, Lille bute également contre Bellegarde, 8e. Deux matchs nuls donc qui ne font pas évoluer les lignes entre ces deux équipes qui restent séparées d'un seul petit point.
Dans le reste du classement, pas de grand changement à signaler, à part l'envolée aramonaise dont on vous a déjà fait part. Angers conserve sa 6e place en s'éloignant de la 5e et en se rapprochant de la 7e tout de même. Bellegarde, Loire-sur-Rhône, Ouest-Lyon continuent leur course dans cet ordre de la 8e à la 10e position.
Ouest-Lyon reste donc en zone de relégation en s'emparant de la place de Lanterne Rouge, rejoint par Loire-sur-Rhône qui occupe la 9e place avec un petit point d'avance.
L'étape de Tarascon était également l'occasion de voir évoluer les 8 équipes qui composent le championnat Pro Elite féminin. Et parmi les 8 matchs au programme de cette étape, des résultats pour le moins inattendus.
Oui, c'est l'équipe de Chambéry qui accuse la plus mauvaise opération. 2e du général avant l'étape, l'équipe savoyard perd 2 places et sort du podium provisoire. Chambéry est actuellement 4e, opposé à Lacano, alors 7e du général. Les joueuses de Chambéry ont vécu un match compliqué où elles s'inclinent finalement 7-6 en cause d'une chute dans les premières minutes de la rencontre qui contraint Marie-Julie Mathieu à être évacuée sur civière et transférée directement à l'hôpital. Bilan donc une double fracture du bassin. Je vous propose tout de suite de la retrouver. On l'avait joint par téléphone le 12 mars dernier. Elle nous explique tout sur sa chute et les suites à attendre.
Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'on était sur un départ P3 arrêté. Donc moi, je pars sur l'aile droite pour faire un appel de balle devant qui n'aboutit pas à grand-chose parce que l'attaque s'oriente mal. Donc du coup, je suis déjà en train de remettre les mains sur les rênes de ma jument. Je passe le but, je vois Gaëlle qui arme son shoot. Donc je me retourne au moment où j'ai passé le but pour voir si le but est dedans. Et là, je sens ma tête en fait qui tape le sol. Donc je comprends que je suis par terre, je l'entends crier. Donc je me retourne et je vois son cheval arriver sur moi. Il tombe sur ma jument, Et pour se récupérer, ben malheureusement, il pose l'intérieur sur mon dos. Et là, je comprends que qu'il va y avoir un problème. Donc voilà. Bon, après, il ne pouvait pas faire autrement, vu la situation, parce qu'on était relativement proches. Et voilà, et une glissade de ma jument fait qu'on se retrouve par terre et qu'il ne peut pas nous éviter. Donc au final, une double fracture au niveau du bassin. Une à droite et une à gauche pour équilibrer, bien sûr. Ça, c'est ce que j'ai. Je suis sortie donc hier de l'hôpital, c'est-à-dire mercredi. Aujourd'hui, je suis encore dans le sud. Je suis pas transportable pour l'instant. Et j'espère être de retour le plus vite pour l'instant regarder des matchs en touriste. Et pourquoi pas, l'objectif étant d'être à cheval pour être puni. À suivre, ça va franchement nickel. Le fait d'avoir déjà être assise, c'est un peu inespéré, parce qu'au début, il m'avait annoncé dans le pronostic 3 mois alité. Au bout de 2 jours, j'étais déjà assise, donc c'est relativement bien.
Dans le même temps, c'est l'équipe de Coutainville-Agréal qui retrouve le haut de tableau, 5e avant l'étape. Les joueuses normandes s'assurent un week-end à 6 points sans briller pour autant.
À la tête du classement, en revanche, l'équipe de Chambly a manqué quand même une occasion de se mettre définitivement à l'abri.
En effet, avec la défaite de Chambéry à leur deuxième, une victoire de Chambly leur aurait conféré une avance de 6 points, quasiment synonyme de titre, alors qu'il ne reste que 2 étapes avant la fin de la saison. Occasion manquée donc pour les joueuses picardes qui s'inclinent 5-6 contre les joueuses de Merchin, actuelle 2e au général. Pour autant, les joueuses de Chambly conservent la première place du classement provisoire avec 2 points d'avance sur l'équipe de Merchin. On retrouve d'ailleurs tout de suite Mickaël Bradfer, entraîneur de l'équipe de Merchin.
Moi, je suis satisfait du début de la saison parce qu'ils ont fait ils sont constantes, ils arrivent à imposer leur style de jeu et je pense que viser le podium, ce serait pas mal pour une première saison, il serait bien. Je les vois bien dans les 3 premières. Voilà, on est 2e, il nous reste encore 4 matchs à faire. Je pense que s'ils arrivent à garder leur tête jusqu'au bout, il y a moyen encore d'en gagner au moins 2 ou 3. Je pense qu'à Gond, ça sera compliqué, mais les autres, ça devrait pouvoir le faire si on est sérieux.
Sur cette étape, on notera également la déroute des championnes en titre de la Champions League, Montpellier-Vallon. Après un match nul surprenant face à West Horsball, 6e au général, le dimanche, les joueuses du Sud s'inclinent contre Nancy-Lorraine, qui n'est autre que la lanterne rouge du championnat et qui n'avait pas gagné de match depuis le 29 novembre dernier au Salon du Cheval contre cette même équipe de Montpellier-Vallon.
Si cette victoire risque de ne pas peser beaucoup lors de la lutte pour le maintien, tant le retard accusé par Nancy sur la zone de non-relégation est grand, Montpellier perd une place au général et se retrouve à la 5e place.
Avec 6 équipes se tenant en 4 points de la 2e à la 7e place, c'est une fin de saison passionnante qui attend les observateurs du circuit féminin. C'est le moment de prendre la direction du parc du Cheval de Rhône-Alpes à Chazet-sur-Ain où se retrouveront les 10 équipes du championnat de France Pro Elite pour disputer les 13e et 14e journées de la compétition.
C'est également à Chazet que les formations de la catégorie pro joueront pour le compte des 9e et 10e journées de leur championnat.
L'étape de Chazet est l'une des nouveautés de cette saison, même si le horseball s'est déjà invité par le passé au parc équestre de Rhône-Alpes. Ce sera tout de même la première fois que les équipes Pro Elite fouleront ce terrain.
À la tête de l'organisation, nous retrouverons conjointement Lionel Bas pour le Poney Club de la Dame Blanche et Olivier Séjard pour le centre équestre du Vieux Moulin.
Tout ça étant dit, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Quelles vont être les compositions probables des équipes pro-élite? Alors, pour essayer de répondre à cette question, c'est le moment de faire un tour par l'infirmerie de la pro-élite. Nous commençons par les formations d'Arles-HSC, Angers, Bellegarde et Chambly pour lesquelles nous ne comptons pas de chevaux ni de joueurs à l'infirmerie. Pour Arles-HSC cependant, il faudra compter sur l'absence de David Abécassis pour des raisons professionnelles avec sa jument Christée Galor. Pour la prochaine étape de Chazet, le couple sera remplacé pour l'occasion par Christine Laguerre sur Allez-Venez Milor. Angers maintenant, avec la vente du cheval de Jean-Baptiste Bélian Coiroux de Chadroup, le cavalier sera dorénavant associé à Euphor Unios. L'équipe sera au complet pour l'étape de Chazet, joueurs, chevaux et entraîneurs. Pour Bellegarde maintenant, la composition sera quasiment au complet. Vincent Tiki sera dorénavant associé à Narcissos, puisque son cheval fil rouge a été vendu dernièrement. Au coaching, il faudra également compter l'absence de Clément Orzac sur cette étape de Chazet, qui sera remplacé par Philippe Herde. Enfin, pour Chambly, aucune absence à noter. Joueurs, chevaux et entraîneurs seront tous au rendez-vous.
Loire-sur-Rhône et Ouest-Lyon maintenant. Les deux équipes rhône-alpines comptent chacune un cheval à l'infirmerie. Pour Loire-sur-Rhône, c'est Alligator Song, le cheval de Kevin Fordos, qui sera absent et remplacé par Shaina. Alligator Song devrait revenir sur les terrains en mai prochain pour l'étape de Bordeaux. Même scénario pour Ouest-Lyon, avec toujours l'absence de New Esteem, le cheval de Thomas Marshall, qui sera remplacé par Roca. Thomas Marshall devrait retrouver sa monture avant la dernière étape du championnat qui se disputera en juin à Jardy.
Passons maintenant aux formations de Coutainville-Izéa et Lille-Améroc. Un cheval à l'infirmerie hein, pour Coutainville-Izéa. En effet, Arthur Schwab sera privé une nouvelle fois de sa monture habituelle, Rambo de Frégère. Retour prévu pour la prochaine étape de Bordeaux. Il sera remplacé par Vacaciones. A noter que Baptiste Auclair et Pierre Abadi retrouvent tous les deux leurs chevaux de tête, à savoir Misléa pour Baptiste Auclair et Saint-Arlem pour Pierre Abadi. Pour Lille-Améroc, nous comptons toujours l'absence pour blessure du cheval de Robin Cool, la Caravella. Retour prévu en mai prochain. Robin Cool sera donc associé à Bob. Alors s'il n'y a qu'un cheval hein, à l'infirmerie pour les Nordistes, il faut noter quand même quelques changements dans l'effectif. En effet, Antoine Cocoïnac retrouve son cheval Urano après avoir essayé une autre monture lors de l'étape de Tarascon. Benoît Laversin, quant à lui, sera associé à Warchandard une nouvelle fois plutôt que son cheval habituel Inca Patrick, qui jouera pour l'étape de Chazet avec la formation d'Amaterin de M. Thomas Chevalier retrouve sa jument Kinine 2 après une blessure. Et enfin, nous ne connaissons pas encore qui sera au coaching de l'équipe entre Christophe Dupont et Yvan Robillard.
Nous terminons par les formations de Bordeaux et Aramonsaz. Les Bordelais comptent deux chevaux à l'infirmerie et un joueur en la personne de Romain Deponce qui sera de retour pour la prochaine étape de Bordeaux. En l'absence de Bernard Deponce et Thomas Soube au poste d'entraîneur pour l'étape de Chazet, c'est Romain Deponce qui ne souffre que du doigt qui sera opérationnel pour prendre le poste d'entraîneur de la formation bordelaise. Les deux chevaux toujours à l'infirmerie sont chef de file, le cheval de Romain Deponce et Malco Malta, le cheval de Romain Vigneron. Alors que Romain Deponce n'a pas l'utilité de son cheval pour le moment, Romain Vigneron sera quant à lui associé à Pelicao pour l'étape de Chazet. Notons que les deux chevaux devraient être de retour pour l'étape de Bordeaux. Enfin, toujours pour Bordeaux, la formation devrait se présenter avec uniquement 5 joueurs pour la prochaine étape, ce qu'il faudra jouer sans Victor Izerd sur Sueno, absent en raison d'un récent événement heureux. Aramonsaz, enfin, avec 3 chevaux indisponibles, Picrine, cheval de Stéphane Gonnet, qui devrait revenir pour l'étape de Bordeaux. Stéphane Gonnet sera associé à Solvi pour l'étape de Chazet. Divin Choix, cheval d'Arnaud Mazas, ensuite, qui devrait revenir au mieux pour Bordeaux et au pire pour Jardy. C'est donc Othello qu'Arnaud Mazas aura sous sa selle à Chazet. Blessure également de Feu d'Artois, cheval d'Adrien Derieux, dont le retour est prévu en mai ou juin prochain. Le couple sera absent pour Chazet.
Il est maintenant temps de s'intéresser aux rencontres, au programme des 13e et 14e journées du championnat de France Pro Elite qui se disputeront ce week-end à Chazet-sur-Ain. Alors pour le leader arlésien, après les étapes de Saint-Lô et de Tarascon sans encombre, le week-end de Chazet s'annonce beaucoup plus délicat à aborder.
En effet, au programme de cette étape rhône-alpine, ce sont deux équipes du top 4 qui se dresseront sur la route du leader arlésien. Opposé à Coutainville-Izéa le samedi, les joueurs de Luc Laguerre affronteront l'équipe francilienne de Chambly le dimanche. Si RLHCC compte toujours 3 points d'avance hein, sur son rival bordelais, l'étape de Chazet pourrait bien redistribuer les cartes. Lors de ces 4 derniers matchs, les joueurs ont rencontré les 4 dernières équipes du classement, de quoi se poser des questions sur la préparation des champions en titre, avec le changement de rythme qu'ils devront supporter. L'occasion de faire le point avec Luc Laguerre, coach de cette équipe d'RLHCC. Bonjour Luc Laguerre.
Bonjour Dexter.
Alors, vous allez affronter Chambly et Coutainville ce week-end. Redoutez-vous un changement de rythme qui pourrait surprendre vos joueurs, sachant qu'on sait que ça fait 2 étapes que vous jouez des équipes de bas de tableau?
Ah oui, c'est possible, oui. Bon, de toute façon, on est quand même conscient que faire des demi-matchs comme on a fait à Tarascon, où le samedi on est bon en première mi-temps et le dimanche en deuxième, ça ne sera pas suffisant pour battre Agon et Chambly. Donc on est prévenu. Maintenant, est-ce qu'on en est convaincu? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Ça fera l'objet de mon briefing, je pense. Mais effectivement, on sait qu'il faut qu'il va falloir qu'on pratique à temps plein pour sortir du week-end un peu la tête haute.
Vous nous aviez confié le 4 février lors de l'émission avant l'étape de Saint-Lô, regretter un certain manque de rigueur et de concentration de la part de vos joueurs. Qu'en est-il aujourd'hui?
Ben, j'ai envie de dire, rien n'a changé. Je suis toujours en attente d'une prestation digne de ce nom. J'en suis toujours à regarder du beau horse ball en moyenne 7 minutes par match. Alors, vu que ça dure 20, pour le moment, on passe, je ne sais pas pourquoi. Si on ne se réveille pas, ben, on va le payer. À un moment donné, on va le payer, c'est sûr. Mais j'espère j'espère une réaction d'orgueil de mes joueurs, parce que bon, là, on ronronne, c'est bien, mais Agon, Chambly, ça commence à être, ça va pas suffire. Voilà. Donc il faut qu'on se bouge.
D'accord. Bah écoutez, merci beaucoup Luc Laguerre pour toutes vos réponses et puis bon courage pour l'étape à Chazé.
À bientôt.
Voilà donc pour le leader Arles HSC. On va s'intéresser maintenant à l'équipe de Bordeaux qui se verra opposée aux équipes de Loire-sur-Rhône et de Lille-Aimeroc sur l'étape de Chazé. Alors si l'opposition face à Loire-sur-Rhône, qui est 9e au classement provisoire, ne laisse que relativement peu de doutes quant à l'issue de la rencontre, l'opposition face à Lille-Aimeroc laisse beaucoup plus d'incertitudes.
Oui, en effet, inutile de rappeler la déconvenue des Bordelais l'an passé face à cette même équipe lilloise. Pour autant, Bordeaux devra se méfier de cette opposition, d'autant que cette équipe bordelaise est toujours privé de son emblématique leader Romain de Ponce, un collectif à 5 qui pour autant n'a pas à rougir de son bilan depuis la mise à l'écart de son capitaine. C'était lors de la 8e journée le dimanche de l'étape du Mans.
En effet, sur les 4 matchs que cela représente depuis la blessure de Romain de Ponce, Bordeaux a récupéré 11 points sur 12 possibles, un bilan plutôt positif, mais qui laisse pour autant un goût amer à ce collectif, comme nous l'explique tout de suite Romain de Ponce. Bonjour Romain de Ponce.
Bonjour les experts.
Alors, vous avez là, avant l'étape de Chazé, quelques problèmes de chevaux avec Chef de File et Malcolm Alta qui sont absents, de joueurs avec votre blessure. Un bilan sur les derniers matchs de 11 points pris sur 12 possibles en 4 matchs. Est-ce que ça vous satisfait? Et puis, quel est un peu votre bilan à la bord de l'étape de Chazé?
Alors, est-ce que ça nous satisfait? Non, parce que notre faux pas était un faux pas qu'on n'avait pas prévu et qu'on n'imaginait pas. Maintenant, c'est les aléas d'un championnat, puisqu'on fait un match nul contre Bellegarde et encore match nul, on s'en tire bien à la dernière seconde. Alors que je pense que c'est un match, même en passant un peu au travers, où on doit malgré tout rester devant le score. Donc ça, c'est la déception sur les 4 derniers matchs. Maintenant, on bat Chambly aussi, qui est quand même encore une fois une des grosses écuries de ce championnat, et qu'on bat malgré nos aléas physiques, aussi bien avec les chevaux qu'au niveau des joueurs. Donc ça, c'est plutôt quand même la bonne satisfaction du week-end de Tarascon. Voilà, maintenant, je pense que ce match nul va nous coûter cher dans la course au titre, puisque c'était bien évidemment à cette course-là qu'on avait envie de participer jusqu'au bout. Maintenant, rien n'est fini.
Et au niveau des absences des chevaux, vous pouvez nous donner un peu des nouvelles de Malcolm Alta et de Chef de File, et puis des nouvelles de vous aussi avec votre problème au doigt?
Oui, ben écoutez, Malco, ça fait déjà, je crois, 3 mois qu'il est mis sur le côté. Bon, rien de grave, juste un hématome au pied, c'est quelque chose qui est assez long à résorber. On avait prévu un retour pour mars, en effet le cheval depuis 3 semaines maintenant a repris un travail normal et conséquent. Pour ce qui est de Chef de File, c'est également un hématome sur le boulet. Donc c'est encore une fois quelque chose de pas très grave, mais qui est plutôt handicapant pour le cheval. Vu de nos résultats du week-end de Tarascon et des chevaux de remplacement qu'on avait pu avoir pour justement suppléer Malco et Zimbro, et de notre résultat contre Chambly, on part du principe qu'on veut prendre vraiment zéro risque avec nos chevaux. C'est des hématomes, c'est pas grave, mais s'ils reprennent un peu trop tôt et qu'ils reprennent des coups dessus, ça serait dommage de replonger pour 2 ou 3 mois d'arrêt. Donc voilà, on a joué la sécurité au niveau des chevaux. On espère que le collectif arrivera quand même à tenir le coup et être performant ce week-end pour, malgré l'absence de ces deux chevaux, être performant. Bon, ben, après, pour ce qui est de ma blessure au doigt, j'ai fait un contrôle radio. J'avais 2 mois d'arrêt strict. La radio a confirmé que l'opération avait bien réaligné tous les bouts d'os fracturés. Maintenant, la calcification prend plus de temps que prévu. Je désespère pas de pouvoir reprendre la compétition sur Bordeaux, mais c'était comme prévu initialement trop court pour jouer sur Chazé.
Eh ben écoutez, merci beaucoup Romain de Ponce pour vos réponses et puis bonne chance pour votre étape à Chazé.
Merci bien.
Derrière, la lutte continue plus que jamais pour une 3e place qui a été rarement aussi disputée. En effet, 3 prétendants se tiennent en 3 points. Chambly, Coutainville, Iséa et Lille-Aimeroc, dans cet ordre, se répartissent de la 3e à la 5e place. Si aucune confrontation directe n'est au programme de l'étape de Chazé, pas de jaloux pour autant dans le tirage. Chacune de ces 3 équipes affrontera une équipe du haut de tableau et une équipe de la 2e moitié du général.
Dans cette 2e moitié de tableau, justement, il y a aussi des points à ne pas laisser passer. Si Angers semble avoir creusé un écart rassurant Durand avec ses poursuivants, l'étape de Tarascon et une défaite contre Aramon a remis l'équipe angevine au contact du groupe bataillant pour le maintien. Aramon, Bellegarde, Loire-sur-Rhône et Ouest-Lyon constituent donc le groupe qui ferme la marche de ce classement provisoire. Avec 3 points entre le 7e Aramon et le 10e Ouest-Lyon, l'étape de Chazet promet d'être des plus disputées.
Oui, et pour le coup, des oppositions directes sont à prévoir entre ces formations. On restera notamment attentif au match opposant les équipes de Ouest-Lyon et de Bellegarde. Si l'on pensait à cette dernière en forme sur l'édition 2015, depuis leur victoire contre Coutainville-Iséa sur l'étape du Mans, le ciel des joueurs de Bellegarde s'est assombri avec une défaite contre Loire-sur-Rhône. Pour autant, cette équipe reste sur une étape de Tarascon remarquable en réalisant le double exploit, match nul contre Lille et contre Bordeaux, ce qui rend l'issue du week-end de Chazet plus incertaine que jamais. Le lendemain, la bataille pour le maintien continuera avec une opposition des joueurs de Bellegarde face à l'équipe d'Angers qui est actuellement 6e du général. Dans le même temps, les équipes de Loire-sur-Rhône et d'Aramon se retrouveront le dimanche pour une opposition une nouvelle fois cruciale étant donné que seuls 2 points séparent ces deux formations qui n'envisagent qu'une seule issue possible, la victoire.
Voilà donc pour les enjeux au programme de cette nouvelle étape du championnat de France Pro Elite. Si la compétition et le classement provisoire de cette compétition se divisent clairement en 3 groupes distincts, nul doute que les confrontations indirect rendront chacune des rencontres incertaines ce week-end. Voilà, notre 7e émission de l'analyse des experts touche à sa fin. Merci à tous de nous avoir suivis.
Pour retrouver toutes les données sportives et suivre la prochaine étape de Chazet avec des informations mises à jour en temps réel, rendez-vous sur le site internet et sur la page Facebook de horseball.org.
Pour nous poser vos questions ou encore nous apporter vos suggestions auxquelles nous essaierons de répondre dans notre prochaine émission, vous pouvez nous écrire à l'adresse email suivante info@horse-ball.org.
On se retrouve pour le prochain numéro de l'analyse des experts le 6 mai prochain, le mercredi précédant la prochaine étape de la compétition qui se disputera au Parc des Expositions de Bordeaux.
Merci à tous
et bonne étape à Chazet.